Turning this morning to the Gospel of John, chapter 14. John 14, verse 15.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu ce matin dans l'évangile de Jean, au chapitre 14. Jean, chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et notre sujet est comment Christ parle de l'Esprit. Comme je l'ai mentionné dans notre lecture de la parole de Dieu, c'est là la dernière nuit où Christ instruit ses disciples, les apôtres, ceux qui seront les apôtres plus tard, avant sa mort à la croix du calvaire. Et en particulier, il attire leur attention sur ces choses qu'ils ont réellement besoin de comprendre d'une manière essentielle et qu'ils ne comprennent pas encore. Et beaucoup de ces choses, dans ce chapitre 14, il leur a enseigné auparavant déjà. Mais il y a certaines choses qui sont entièrement nouvelles. Ils ne vont pas comprendre tout de suite. Et au chapitre 16, nous trouvons qu'ils disent encore « Nous ne comprenons pas ce que tu veux dire quand tu dis ceci et cela. » Et soudainement, ils ont compris. Par la bénédiction de Dieu, ils ont compris toutes ces choses qu'il leur a expliqué ici. Et ils lui disent, maintenant nous comprenons, maintenant tu parles clairement. Le Seigneur Jésus-Christ n'aurait pas pu parler plus clairement tout le long, mais à présent, ils comprennent. Et pour eux, c'est comme si ces paroles n'avaient jamais été dites auparavant. C'est comme un effet qui est retardé, mais ce sont ces dernières paroles aux disciples, chapitre 14, 15, 16, et la grande prière sacerdotale pour eux au chapitre 17. Et nous allons considérer un certain nombre de versets dans le chapitre 14 aujourd'hui, à partir du verset 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et notre premier point sera celui-ci, cette bénédiction que Christ va mentionner, en particulier le don du Saint-Esprit, et exclusivement, uniquement pour les croyants, uniquement pour les disciples. Ceci semble être évident pour nous, mais ce n'était pas évident pour eux. J'ai déjà mentionné ceci plusieurs fois dans notre étude de Jean, mais souvenez-vous qu'ils étaient encore préoccupés par cette idée que Christ, quand il allait venir, le Messie, quand il allait venir, allait être un Messie politique qui allait délivrer la nation de l'occupation romaine, qu'il allait être un Messie politique qui allait établir un grand royaume et le pays allait être grand, victorieux, d'une manière physique et terrestre. Et continuellement, le Seigneur leur dit non, le but ultime, le but des prophéties, l'enseignement de la Bible dans tout l'Ancien Testament, c'est que le Messie sera un Messie spirituel pour ouvrir le chemin vers le ciel pour les âmes perdues et condamnées, non pas un Messie politique terrestre. Et ainsi, c'est en particulier souligné au début de cette instruction par rapport au Saint-Esprit. Verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et je prierai le Père qui vous donnera un autre Consolateur. » pour demeurer éternellement avec vous. Mais ceci sera pour eux. Le Saint-Esprit leur sera donné à eux, aux disciples. C'est là l'Église du Nouveau Testament qui va démarrer au jour de la Pentecôte. Pour les Juifs élus et les non-Juifs élus également. Les Juifs qui seront sauvés et les non-Juifs qui seront sauvés. Cette nouvelle Église qui est uniquement pour les croyants. Nous pensons peut-être à la première prédication de Christ, les Béatitudes, dans Matthieu 5. Vous vous souvenez ce qui s'est passé? Il y avait une grande multitude et il monte sur cette colline qui est décrite dans notre version comme étant une montagne. Et il s'installe et il s'adresse à ses disciples. Et il y a certains membres de la grande foule, de la multitude, qui viennent là, qui montent sur cette colline pour l'écouter. Mais il parle uniquement aux disciples. Il s'adresse à eux et il utilise des paroles qui sont exclusivement pour ses disciples. Et il leur parle du nouveau royaume. La foule, oui, entend également, mais tout ceci est adressé uniquement à ses disciples. Les caractéristiques de mes disciples sont telles et telles. Et eux seront particulièrement bénis. Dès le tout début, il leur disait, par la manière de parler, par les choses qu'il disait, que ceci n'est pas pour tous, mais c'est uniquement pour ceux qui croient en moi, pour ceux qui sont mes disciples. Mais malgré cela, ils n'ont pas réellement compris que l'Église de Jésus-Christ sera l'ensemble de ceux qui sont pris hors du monde et que la bénédiction du Saint-Esprit sera pour eux seuls. Ainsi, je commence avec ceci. Et là, au verset 15 du chapitre 14, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » C'est comme s'il leur disait, si je peux paraphraser ce passage, « Si vous m'aimez, ne me demandez pas de rester avec vous. Si vous m'aimez, n'essayez pas de vous accrocher à moi, à ma présence physique ici sur cette terre. Si vous m'aimez, alors préparez-vous pour mon départ. Le jour d'après, il sera crucifié. Si vous m'aimez, alors comprenez que vous êtes mes apôtres et que le but même de mon appel, c'est que vous me représentiez quand je suis parti et il y aura cette nouvelle église qui sera internationale plus tard. Ainsi, gardez mes instructions, mes commandements. Si vous m'aimez, ne pensez pas simplement au fait que je sois présent ou absent, mais acceptez mon grand ministère que je vous ai donné, cet appel, et obéissez à mes commandements. Si vous m'aimez, c'est là le sens de ce verset, gardez mes commandements. Nous pensons instinctivement aux 10 commandements, mais pourquoi est-ce que le Seigneur dit « gardez mes commandements » Bien sûr, nous devons garder tous ces commandements. Quand nous sommes sauvés par lui, volontairement, et nous aspirons à garder la loi de Dieu dans les 10 commandements qui est expliquée dans toute la Bible. Oui, c'est les commandements de vie pour nous, par son aide, nous les gardons. Mais mes commandements, ceci se réfère d'une manière plus précise à ses instructions, à ses disciples en tant qu'apôtres et à nous également. Par exemple, ils se sont assis là à la première Sainte Cène peu de temps auparavant. Dans l'évangile de Luc, il est dit que Christ leur a dit « Faites ceci en souvenir de moi, c'est l'un de ses commandements. Gardez mes commandements. » Nous ne parlons pas de tous les commandements moraux de Dieu d'une manière générale, mais des commandements de Christ en particulier. Un autre commandement dans le chapitre précédent, « Aimez-vous les uns les autres ». Dans l'Église, en tant que chrétien, vous, apôtres, vous devez vous aimer les uns les autres. Il y avait d'autres commandements également qui sont tout particuliers et des commandements particuliers de Christ. Peu de temps après, ils auront ce grand appel de Matthieu 28. Ce sont là mes commandements, ces instructions particulières pour les apôtres, pour les chrétiens qui vont les suivre. Pour prêcher l'Évangile, pour que l'Évangile soit connu de toutes les nations, en baptisant dans le nom du Fils, du Père et du Saint-Esprit, ce sont là les commandements auxquels Christ se réfère ici. Mais bien sûr, les commandements moraux, les 10 commandements sont inclus également. Si vous m'aimez, gardez mes instructions, mes commandements. Je suis le Seigneur de l'Église et vous êtes les apôtres du futur. C'est la première chose. Ceci est exclusivement pour ses serviteurs. Et mon deuxième point au verset 16 est celui-ci. Ceci parle de la personne du Saint-Esprit. Et je prierai le Père qui vous donnera un autre consolateur pour demeurer éternellement avec vous. Et le Seigneur se réfère ici, comme il le dit au verset 17, au Saint-Esprit. L'Esprit de vérité, la personne du Saint-Esprit. Combien est-ce que les disciples ont compris par rapport au Saint-Esprit avant ce moment, cette dernière soirée, cette dernière nuit? Une personne juive à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle savait par rapport au Saint-Esprit? Au verset 16, « Et je prierai le Père qui vous donnera un consolateur, l'Esprit de Christ. » Un autre consolateur. C'est là une autre personne de la Trinité. Christ est leur consolateur. Ce terme traduit par consolateur peut être traduit de différentes manières. Certains traduisent ce terme par protecteur. D'autres par votre aide. D'autres le traduisent par rapport à son sens littéral avocat. Mais ce n'est pas le sens premier. Ceci est évident. Notre version traduit par consolateur, et nous verrons bientôt pourquoi. Ce protecteur, cette aide, celui qui est le consolateur, ils ont déjà un consolateur. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il est le Fils de Dieu, le Fils éternel de Dieu. Il est la deuxième personne de la Trinité. Il est un membre de la Trinité. Il est un avec le Père, un seul Dieu en trois personnes. Il est une personne divine, mais il les quitte. Et ainsi, ils vont recevoir un autre consolateur, une autre aide, un protecteur, un avocat. Voyez-vous, celui qui leur sera donné pour remplacer Christ, et comme Christ lui-même, une personne divine, c'est le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, égale au Père, égale au Fils. Et probablement, c'est là la première fois que les disciples comprennent ceci. Ils avaient entendu parler du Saint-Esprit. Ce terme « Saint-Esprit » était utilisé souvent parmi les Juifs de cette époque et je vais vous montrer comment nous savons ceci. Mais très probablement, ils pensaient, parmi leur mauvaise compréhension de choses, que le Saint-Esprit était simplement une force qui émane de Dieu. Dieu en action, la puissance de Dieu, un autre nom pour la puissance de Dieu. Peut-être qu'ils n'ont jamais pensé au Saint-Esprit comme étant une personne merveilleuse, glorieuse, une personne divine, membre de la Trinité, un avec le Père et le Fils. Et je prierai le Père qui vous donnera un autre consolateur pour qu'il puisse demeurer éternellement avec vous. Lui demeurera éternellement avec vous. Et ce terme « lui » signifie qu'il est une personne divine, avec sa propre identité. Je prierai le Père qui vous donnera un autre consolateur, protecteur, aide, avocat, pour demeurer éternellement avec vous. Et probablement, c'est la première fois que les disciples ont entendu ceci expliqué si clairement. Dans l'Ancien Testament, vous trouverez le Saint-Esprit qui est mentionné de nombreuses fois. Et en considérant l'Ancien Testament avec les yeux du Nouveau Testament, il est évident qu'il est un membre de la Trinité. Mais vous devez penser que peut-être que ceci n'était pas si évident pour les gens de l'époque. C'est évident maintenant. Dieu dit, dès le début, « Créons l'homme à notre propre image, la pluralité du Dieu unique et trois fois saint, dès le début. » Et voyez-vous, les Israélites avaient une prière, et jusqu'à ce jour, c'est une prière pour les Juifs orthodoxes qu'ils prient trois fois par jour. Le schéma de Deutéronome, « Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est un seul Dieu chaque jour. Ils priaient cela. Probablement qu'ils ont pris ceci de manière trop littérale. Il est un seul Dieu, un seul. Et ils n'ont pas compris la Trinité, qu'il est un, mais qu'il est trois en un. Un seul Dieu, une essence divine, un être divin, et cependant, dans le mystère de la Trinité, trois personnes distinctes qui partagent en un accord parfait, en harmonie parfaite, toute pensée, tout attribut. Ils n'ont probablement pas compris cela. Maintenant, ceci nous est révélé par Christ. Je m'en vais et à ma place, vous aurez le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui va demeurer en vous, qui va œuvrer en vous spirituellement, qui va vous faire comprendre les choses divines aussi clairement que si j'étais physiquement présent avec vous, comme votre instructeur. Maintenant, nous sommes dans l'ère du Saint-Esprit, dit le Seigneur. Je suis absent, mais je suis avec vous par mon esprit. Ainsi, il continue au verset 16, « Et je prierai le Père qui vous donnera un autre consolateur, une aide, un protecteur, un avocat, pour qu'il puisse demeurer éternellement avec vous. » Tout le long de l'ère de l'Église, cette dernière période de l'Église, la période de la grâce jusqu'au jour où Christ reviendra. Au verset 17, « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. » Je ne suis pas venu pour être un messie politique, un sauveur politique, mais pour sauver les âmes. Et seuls ceux qui sont sauvés vont recevoir l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. J'ai mentionné la Trinité qui est si évidente dans l'Ancien Testament. Quand nous lisons ceci avec les yeux de la foi, je voulais lire un certain nombre de passages, mais je vais en lire un seul pour vous donner un exemple typique. Mais beaucoup de ces gens de ce temps-là n'ont pas compris ceci. Ésaïe, chapitre 48, verset 16. Ce sont là des paroles qui sont écrites par le prophète et qui sont mises dans la bouche du Messie. « Approchez-vous de moi, écoutez ceci. » Dès le commencement, je n'ai point parlé en secret. Depuis que la chose existe, je suis là. Et maintenant, c'est le Seigneur, l'Éternel et son Esprit qui m'envoie. C'est là le Messie qui parle. Et il parle comme étant Dieu. Celui qui est présent depuis le début avec le Père. Et non seulement le Père l'a envoyé, mais l'Esprit également. Qui est mentionné comme s'il est une entité particulière. Ainsi a dit l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'enseigne ce qui est bon. Vous avez un passage tel que celui-ci, qui est si trinitaire, les trois personnes de la Trinité, mentionnées dans une seule phrase. Et il y a d'autres passages également. Ainsi, la Trinité est présent dans l'Ancien Testament. Et peut-être que les gens les plus spirituels, le prophète lui-même et d'autres, ont compris ces choses clairement. Le roi David a clairement compris ces choses. Vous voyez la Trinité dans les psaumes. Mais je pense que les Juifs, dans leur généralité, n'ont pas compris ceci. Et jusqu'à ce jour, ils n'ont pas compris ceci. L'une des grandes tragédies de nos jours, c'est que les Juifs ne croient pas dans la Trinité. Et sans la Trinité, vous ne pouvez pas comprendre le Rédempteur, le Sauveur qui est venu pour mourir à notre place, pour expier nos péchés. Dieu qui vient lui-même dans la personne de son Fils. Et les disciples devaient comprendre ces choses. Ils devaient avoir ces choses clairement à leur esprit, et c'est là l'explication qui leur est donnée par le Seigneur avant qu'ils ne les quittent. Maintenant, l'œuvre de l'Esprit est mentionnée, c'est là mon troisième point, alors que nous considérons le verset 17. Il est celui qui illumine le cœur humain. Christ leur enseignait cela bien avant ces versets. Quand vous pensez à Jean chapitre 3, vous pensez à cette explication, cette instruction de Christ à Nicodème, un chef des pharisiens, en lui disant qu'il doit être né de nouveau, et il lui explique l'œuvre de l'Esprit dans le salut. Mais les disciples n'ont pas compris cela. Et à présent, ceci leur est répété dans des termes si clairs. Et le Seigneur leur donne l'ordre du salut, comment le salut se passe. Ceci est pour ceux qui croient et ils sont sauvés ainsi, ils sont illuminés par le Saint-Esprit. Au verset 17, « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez. Il a œuvré dans votre cœur et il vous a amené dans la conviction de péché. Il vous a fait réaliser votre besoin du salut. Il vous a montré Christ. Il est celui qui vous a illuminé, qui vous a montré le chemin. Et vous avez eu cette expérience du Saint-Esprit. Le monde ne reconnaît même pas son existence. Ainsi, c'est pour les chrétiens, pour les croyants. L'apôtre Paul dit « L'homme naturel, l'homme charnel, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. » Parce que ces choses sont folies pour lui, il ne peut pas les comprendre, parce qu'elles sont discernées de manière spirituelle. Et au verset 18, je continue, c'est là un autre point, l'œuvre du Saint-Esprit, qui est celui qui donne l'assurance aux enfants de Dieu. « Je ne vous laisserai point orphelins, sans réconfort, je viens à vous. » Maintenant, nous comprenons pourquoi les traducteurs de notre version ont traduit ce terme grec pour « avocat, aide, protecteur ». Ils l'ont traduit par « consolateur ». Et maintenant, nous savons pourquoi, parce qu'au verset 18, « Je ne vous laisserai point sans réconfort. » Ce terme grec, nous l'avons dans notre langue, c'est ce terme qui veut dire orphelin. Je ne vous laisserai point orphelin, littéralement en grec, sans parents, sans réconfort. Le Saint-Esprit amène la présence de Christ à nous. Le Saint-Esprit nous assure du salut. C'est une chose extraordinaire. Quand nous venons à Christ et que nous nous repentons de notre péché, que nous nous confions en lui. Ensuite, vient cette chose si précieuse, ce moment précieux, cette expérience précieuse, où, d'une certaine manière, c'est difficile d'expliquer, mais d'une certaine manière, vous savez que vos péchés sont pardonnés. Vous le savez. Vous savez que vous avez la paix avec Dieu. Vous savez qu'il est votre Seigneur. Et votre maître, vous savez que vous avez été sauvé. Vous pouvez venir à lui et prier « Abba Père ». Vous pouvez prier, vous vous confiez en lui, vous l'aimez. Vous n'êtes plus celui qui le cherche et qui crie à lui « Est-ce que je vais le trouver ?» ou « Est-ce que je ne le trouverai point ?» Mais il y a une paix, une nouvelle paix en vous. Une certitude. Oh, ce serait difficile pour vous de décrire ces choses, mais c'est là. Je ne vous laisserai point sans réconfort, dit Christ à ses disciples. Je m'en vais, mais spirituellement, vous ne serez pas sans parents, orphelins, parce que le Saint-Esprit va œuvrer directement dans votre âme. Et vous aurez ce réconfort, cette assurance, et vous saurez que vous êtes son enfant, et que votre âme est en sécurité. Je ne vous laisserai point sans réconfort. Je viens à vous. Ce qui signifie, je viens à vous par le Saint-Esprit. Je viens à vous. Il ne se réfère pas ici à son retour. Il ne se réfère pas ici à son apparition brève, à son apparition après sa résurrection, mais il se réfère à la venue du Saint-Esprit et au fait qu'il demeure en eux. Je ne serai plus présent physiquement avec vous, mais voyez-vous, je viendrai à vous, je vous donnerai l'assurance, je vais vous enseigner, vous diriger, vous fortifier, comme si j'étais là, mais spirituellement. Directement, dans votre cœur, dans votre âme, par le Saint-Esprit. C'est là la signification. Je ne vous laisserai point sans réconfort, orphelin, je viens à vous. Au verset 19, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, parce que je vis dans la gloire céleste. Il va vers le Père, parce que je vis, vous vivrez aussi. Le fait que Christ vit signifie que la croix du calvaire a été un succès. Il a ôté la condamnation éternelle de ses enfants entièrement. Le Père a accepté son offrande parfaite de justice, oui, bien sûr. Ainsi, parce que Christ vit éternellement avec le Père, où il était éternellement dans la gloire, son œuvre est entièrement un succès. Et grâce à cela, nous vivrons également. Nous aurons la vie éternelle maintenant et après la mort pour toujours. Au verset 20, en ce jour, vous connaîtrez, vous saurez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Par l'assurance et la bénédiction et la puissance du Saint-Esprit. Ainsi, il est celui qui réconforte, qui nous donne l'assurance. Et j'aimerais dire un peu plus par rapport au verset 19 et 20, avec ce point, le Saint-Esprit est celui qui révèle Christ à ses enfants. Il est celui qui nous illumine, qui nous convainc de notre péché, qui nous montre la vérité et la croix du calvaire quand nous sommes sauvés. Il est celui qui nous donne l'assurance et il est également celui qui amène Christ à vivre en nous et il nous révèle Christ. Considérez ces paroles au verset 19, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Mais on ne le voit pas. Oui, nous le voyons avec les yeux de la foi. Il est remonté au ciel, il est parti, mais nous le voyons. Il nous rend capable de le voir par le Saint-Esprit. Nous le voyons quand nous lisons les Écritures. Nous le voyons. Par les yeux de notre esprit, nous le voyons dans cette preuve de son amour envers nous. Il est parti, mais vous me verrez. Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Parce que je vis, vous vivrez également. Et ces termes extraordinaires au verset 20, en ce jour quand je serai parti, quand je viendrai à vous dans votre cœur par le Saint-Esprit, en ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père. Vous serez certain de cela, de son succès, qu'il est reparti vers la gloire. Et vous serez en moi. Nous avons parlé de ceci, l'assurance, et moi en vous. Et ceci nous amène à cette promesse. C'est une promesse extraordinaire du verset 21. Une promesse qui est également une condition. Ainsi, nous écoutons avec attention, celui qui a mes commandements et qui les garde. Oui, ceci inclut, si vous voulez, tous les commandements moraux de Dieu. Nous sommes croyants à présent et nous gardons ces commandements. Ce terme en grec traduit par garder signifie littéralement protéger. Nous gardons ces commandements, nous les protégeons, nous les gardons tout près de nous, nous les protégeons. Nous les gardons en tout sens du terme. Oui, les commandements moraux, mais plus que cela. Cela signifie les commandements de Christ qu'il a donnés aux apôtres. Celui qui a mes commandements. Si nous avons été sauvés, à présent nous avons, nous possédons l'appel de Christ, le commandement de Christ à ses enfants pour que l'évangile soit répandu, soit connu pour le représenter, pour œuvrer ensemble pour le royaume de Dieu, pour garder ce que le Seigneur a donné, ses instructions, comme la Sainte Cène, celui qui a mes commandements. Si vous êtes venu à Christ, vous avez un grand bien. C'est son appel qui vous a été donné pour que vous soyez son enfant, pour que vous viviez pour lui, que vous le représentiez, que vous lui obéissiez. Celui qui a mes commandements et qui les garde précieusement et qui les met en pratique, c'est celui-là qui m'aime. Aucun autre amour n'est valable, mais simplement cet amour qui garde mes commandements. Et voici la promesse et la condition. Et celui qui m'aime en gardant mes commandements sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Nous sommes confus ? Ceci semble être dans le mauvais sens. Il y a un ordre ici qui est surprenant. Et cependant, c'est l'ordre qui nous est donné. Celui qui m'aime comme récompense sera en retour aimé de mon Père. Mais ceci ne peut pas se faire. Nous l'aimons lui parce qu'il nous a aimés en premier. Nous l'aimons parce qu'il a œuvré dans nos cœurs qui ne méritent rien, qu'il a brisé notre orgueil, qui nous a montré Christ, qui nous a amenés à lui. Nous sommes sauvés par la grâce, tout est par grâce. C'est lui qui a œuvré en premier, d'une telle manière que nous avons répondu à son appel. Et cependant, ceci semble être mis dans l'autre sens. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Alors, quel est le bon sens ? Est-ce que c'est Dieu qui œuvre d'abord et moi je réponds à son appel ? Ou est-ce que c'est moi qui l'aime et lui répond à mon appel ? Mais nous n'avons pas de problème avec ce verset parce que ces deux choses sont vraies, toutes les deux. Mais nous l'aimons uniquement parce qu'il nous a aimés en premier. Mais alors que nous avons été amenés à l'aimer, il y a cette promesse extraordinaire de Dieu, si vous m'aimez, si vous gardez mes commandements, je vais vous récompenser encore plus. Et par le Saint-Esprit, Christ vous sera révélé et vous aurez une telle conscience de sa bonté, de sa puissance, de sa présence, de sa proximité. Vous aurez tant d'expérience de sa bonté et vous allez être émerveillé devant lui. Mais je lui dois tout. Mais si seulement dans ma faiblesse, je fais de mon mieux pour lui obéir, pour le représenter, alors il va me bénir encore plus. Ces deux choses sont vraies dans les deux sens. La promesse de Christ, celui qui m'aime sera aimé de mon Père et je l'aimerai. Je suis absent, je suis dans la gloire, mais je vais donner cet amour par la bénédiction du Saint-Esprit. Moi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Chaque fois que vous lisez sa parole, chaque fois que vous priez, chaque fois que vous parlez pour lui à un voisin, à un enfant, à un ami, chaque fois que vous le louez, que vous l'adorez, si vous êtes quelqu'un qui lui obéissait, qui obéissait au commandement de Christ, qui vous demande de parler de lui, de répandre l'évangile, alors il va se révéler à vous. Ce sont là des paroles extraordinaires qui nous sont données au verset 21. Et je vais conclure bientôt. Au verset 22, Judas lui dit « Ceci n'est pas Judas Iscariote. » Jean explique ceci. C'est Judas qui appelait aussi le fils de Jacques. Judas de Jacques. Ceci peut être le frère de Jacques ou le fils de Jacques. Mais c'est un autre Judas, ce n'est pas Judas Iscariote. Judas lui dit « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non pas au monde. » Il ne comprend pas du tout. Christ a dit « Je vais vous quitter ». Une autre personne, membre de la Trinité, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, viendra et demeurera avec vous, demeurera en vous. Et par lui, je serai révélé à vos cœurs, révélé à votre esprit, et je serai présent avec vous par lui. Mais Seigneur, comment? Comment est-ce que tu peux te révéler à nous et pas au monde? Pourquoi est-ce que Judas, de Jacques, fils de Jacques, et probablement qu'il représente l'idée d'autres d'ici, pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent pas? Parce que Judas a encore à l'esprit l'idée que Christ est un messie politique qui va les délivrer. C'est comme s'il disait au Seigneur, tu veux dire que tu ne vas pas te révéler à la foule, au monde? Tu ne vas pas te révéler à tout le monde, de manière à ce qu'il te donne une couronne, qu'il te suive, qu'il te fasse roi pour délivrer ce pays pauvre et opprimé par le joug romain. Il ne s'est pas encore débarrassé de cette idée. Ainsi, il se dit, mais comment est-ce que ceci se peut que tu te révèles à nous seulement et pas au monde et à tout le monde? Le Seigneur répond en répétant son instruction. Peu de temps après, Judas va comprendre, mais pas encore. Mais nous, nous avons l'avantage de la lumière du Nouveau Testament. Nous pouvons comprendre ces choses merveilleuses, sans problème. Ainsi, nous avons étudié ce matin que l'Esprit Saint est uniquement pour les croyants, pour les serviteurs de Christ. Le Seigneur va donner la personne divine du Saint-Esprit, pour demeurer en nous. Il sera celui qui va nous illuminer pour nous convaincre de péché, pour illuminer l'âme, pour nous montrer Christ. Il va nous donner l'assurance. Et Christ ne va pas nous laisser orphelins sans réconfort. Il va nous donner l'assurance du salut. Et le Saint-Esprit va révéler Christ à nos cœurs, en particulier alors que nous lui obéissons. C'est là le passage de ce matin, chers amis. Nous avons besoin de ces choses tout autant que les disciples en avaient besoin.